Appel d'air, Céline sur Radio Grand Ciel. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Appel d'air, il neige. La neige, quand elle arrive, elle peut nous émerveiller. Elle peut aussi nous inquiéter, voire nous déstabiliser complètement. Nous l'avons vécu il n'y a pas si longtemps. Toutes les facettes de la neige, nous allons les aborder dans cette émission. Et on commence en douceur avec la chanson de Cécile Corbel intitulée « Neige ». Depuis son enfance, la neige a toujours fait partie de la vie de l'auteur italien Daniele Zovi, d'où l'envie de lui consacrer un livre. Ce livre s'intitule « Autobiographie de la neige, histoire d'un monde silencieux ». L'auteur est écrivain et spécialiste des forêts et de la vie sauvage. Il publie des articles de vulgarisation scientifique, mais il est peu traduit en France. Il est avant tout un montagnard, né dans un petit village sur le plateau d'Asiago, au nord-est de l'Italie. Dès l'âge de 8 ans, il aimait observer avec une loupe les cristaux qui composent un flocon. Adulte, il a suivi des cours de glaciologie qui lui ont permis de savoir exactement comment est composé un flocon de neige. Il nous le décrit très précisément d'ailleurs. Les cristaux capturent l'air et donc empêchent les ondes sonores de se réverbérer, ce qui produit, je cite, « le plus beau des silences, un silence que le ciel construit avec patience et que la terre accueille avec gratitude ». L'auteur évoque également la couleur de la neige, et oui, elle n'est pas toujours blanche, dans un chapitre qui lui permet de nous dévoiler, d'après lui, quelles sont les meilleures représentations d'un paysage enneigé dans l'art. La neige, dans sa région natale, on en parle beaucoup. Dans le dialecte cimbre, pour la désigner, il existe différents noms. Il y a un nom pour la première neige qui ne tient pas, un nom pour la vraie neige, celle du cœur de l'hiver, abondante et qui tombe à gros flocons, un nom pour la neige d'avril, qui est aussi appelée la neige du coucou. Autant de noms qui prouvent, d'après lui, à quel point les montagnards aiment la neige. Un chapitre est consacré aussi aux avalanches. Daniel Esovi lui-même a travaillé pendant longtemps au service neige et avalanches. Il nous livre quelques anecdotes et nous raconte un exemple assez surprenant de survie suite à une avalanche dans un village au XVIIIe siècle. L'auteur est un passionné de nature, il nous expose dans un chapitre complet différents exemples de stratégies face au froid que peuvent déployer les insectes, les oiseaux, les mammifères. Il nous raconte aussi comment les arbres sont capables de modifier leur métabolisme et de créer une espèce de mécanisme d'antigel. Ce livre s'intitule « Autobiographie de la neige », mais il est pour ainsi dire aussi l'autobiographie de l'auteur, puisqu'il relate de nombreux souvenirs, des souvenirs d'enfance, notamment deux exemples de sorties très imprudentes quand il était plus jeune. Il décrit la neige qu'il a connue pendant son service militaire en Italie, celle qu'il a pu voir à Saint-Pétersbourg, ou tout simplement celle qu'il connaît aujourd'hui au fil de ses sorties en raquette ou à ski dans sa région natale. Le point de départ de ce livre, c'est un constat alarmant. Les glaciers tendent à disparaître et à reculer. L'auteur qui s'est rendu il y a 40 ans au Pérou ou au Népal a vu des glaciers qui aujourd'hui n'existent plus ou se sont terriblement réduits. Daniel Esovi déclare au début de son livre « J'ai eu de la chance, j'ai vu tant de neige ». Autobiographie de la neige est un livre publié aux éditions Glénat.
In the blizzard of 77, the cars were just lumps on the snow. And then later, tripping in 7-Eleven, the shelves were stretching out of control. On a plane ride, the more it shakes, the more I have to let go. Now the signal's still getting all mixed up. We're always doing damage control. But in the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. In the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. I know I have got a negative edge, that's why I sharpen all the others a lot. It's like flowers or ladybugs, pretty weeds or red beetles with dots. But in the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. In the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew.
Nous venons d'écouter le groupe Nada Surf qui nous a parlé de blizzard, plus précisément d'un blizzard qui a eu lieu en 1977 et qui a bien marqué les esprits dans la région de New York. Le blizzard évoqué dans le premier roman de Marie Vintras, je ne sais pas de quelle année il date, mais en tout cas, il a lieu en Alaska. Blizzard, c'est un roman publié aux éditions de l'Olivier. Le titre annonce tout de suite le programme, puisque dès la première page, nous marchons en plein blizzard aux côtés de Bess. La jeune femme avance péniblement dans la tempête à la recherche d'un petit garçon qu'elle a perdu et qui s'appelle Thomas. Elle a lâché sa main le temps de refaire ses lacets et l'enfant de 10 ans a disparu. Il faut le retrouver avant que le pire n'arrive. Bénédicte, l'homme qui lui a confié la surveillance de Thomas, vient de se réveiller et réalise justement que Bess et Thomas ne sont plus dans la maison. Il décide donc de partir à leur recherche et sollicite l'aide de son voisin Cole, qui lui serait bien resté tranquillement à la maison au chaud. Avant de partir, Bénédicte a prévenu un autre voisin, Freeman, un retraité de la police, arrivé 2 ans plus tôt dans leur hameau. Dans ce roman, toute l'action est concentrée autour de ce moment critique où tous sont à la recherche du petit garçon de 10 ans. Cette recherche, nous allons la vivre à travers les pensées des 4 personnages principaux, ces 4 adultes donc qui gravitent autour de Thomas. Leur voix à tous les 4 alterne en continu. Cette immersion dans leurs pensées va nous révéler bien des choses et nous amener à questionner les relations entre tous ces personnages. Pourquoi Bess, cette jeune femme rousse originaire de Californie, a atterri dans ce coin perdu d'Alaska pour s'occuper de cet enfant? Pourquoi Bénédicte, ce colosse taiseux et doux, a choisi de lui confier Thomas? Quelle histoire familiale porte-t-il, ce trentenaire qui a toujours vécu ici en harmonie avec son environnement? Et Freeman, cet homme qui semble fuir quelque chose, pourquoi a-t-il atterri ici 2 ans auparavant? Quant à Cole, qui se révèle très vite imbuvable, raciste, misogyne, quel sombre secret cache-t-il lui aussi? Au fil de ce récit, nous comprenons vite que la violence de cette tempête n'est pas la seule menace qui plane sur la vie de tous ces personnages. Les souvenirs qui leur reviennent en tête constituent les pièces d'un puzzle qui prend forme peu à peu, et ce jusqu'à la toute fin du livre. Chacun se livre en quelques pages seulement, dans des chapitres très courts. Le roman est donc très rythmé, un roman trépidant où le sentiment d'urgence se règne. On a hâte de sortir de la tempête, tout comme on a hâte de comprendre enfin ce que chacun nous cache. Blizzard, c'est un premier roman de Marie Vintras, un roman captivant publié aux éditions de l'Olivier.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Michael, where is Mark? Where is Matthew? Now it's getting dark. Oh, where is Joan? They're all out back under 15 feet of pure white snow. Would you please put down that telephone? We're under 15 feet of pure white snow. I wave to my neighbor wave to me. But my neighbor is my enemy. I kept waving my arms till I could not see. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody out there, please? It's too quiet in here and I'm beginning to freeze. I got icicles hanging from my knees. Under 15 feet of pure white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky.
Oh my Lord.
Brave and the Bad Seeds, avec une chanson dans laquelle tout était recouvert sous 15 pieds de neige. Une situation assez similaire à celle que nous allons découvrir dans le roman Le Poids de la Neige, un roman de l'écrivain québécois Christian Gay-Poliquin. Passer l'hiver au chaud, près du poêle, à observer la neige s'accumuler et tout recouvrir, ça peut sembler agréable. Tout dépend du contexte, bien sûr. Si on est en convalescence suite à un accident de voiture et dans l'incapacité de marcher, comme c'est le cas du narrateur de ce roman, ça ne fait pas rêver. Quand en plus on se trouve obligé, comme lui, de cohabiter avec un homme qu'on ne connaissait pas jusque-là dans une seule pièce, et qu'on est coupé de tout, presque, c'est encore moins drôle. Le personnage principal de ce roman a donc été victime d'un accident de voiture alors qu'il se rendait, pendant l'été, vers son village natal, dans lequel il n'était pas venu depuis 10 ans. Il a été secouru par les habitants du village, qui ont reconnu en lui le fils du mécanicien. C'est le pharmacien et la vétérinaire qui l'ont soigné. Et oui, en cet été où a eu lieu l'accident, une grande panne d'électricité a touché tout le pays, désorganisant l'ensemble de la société. Il n'y a plus aucun moyen de communiquer avec les autres villes et de savoir ce qui se passe au niveau national. Les habitants de ce hameau isolé dans la forêt se sont alors organisés pour survivre. Personne n'avait vraiment envie de prendre en charge notre accidenté, et l'un des villageois, Joseph, a eu une idée. Confier le convalescent au vieux Mathias. Mathias, c'est un homme de 80 ans, arrivé là au cours de l'été lui aussi, mais bloqué à cause d'une panne de voiture. Il se dirigeait vers la grande ville la plus proche pour aller voir sa femme à l'hôpital. Mathias n'a qu'une hâte, repartir le plus tôt possible. En attendant, il a trouvé refuge dans la cuisine d'été d'une grande maison abandonnée, une véranda en fait. En échange de son rôle de garde malade, on lui promet une place dans le premier convoi qui tentera de quitter la région au printemps. C'est ainsi que débute la cohabitation forcée entre les deux hommes. Le narrateur souffre le martyre dans un premier temps et ne décroche pas un mot. Mathias va combler le silence en parlant seul, en racontant des histoires qu'il a lues dans les livres. Plus la neige va s'accumuler, plus le temps va leur paraître long et des tensions vont voir le jour. Leur quotidien est rythmé par quelques rares visites de villageois et pour notre héros par l'observation à la longue vue des environs du village qui se situe à 30 minutes de marche. Hormis quelques incursions à l'extérieur, l'essentiel du roman se déroule dans cette véranda. Il n'y a pas vraiment de rebondissement trépidant dans ce livre, mais juste ce qu'il faut de tension et d'interrogation pour nous happer et nous donner envie de voir si les personnages arriveront à traverser cet hiver qui leur paraît interminable à tous les deux. Et bien sûr, il y a cette neige qui n'en finit pas de tomber. D'ailleurs, les numéros en début de chapitre indiquent en centimètres le niveau de neige qui s'accumule. Une neige qui crée une ambiance hypnotique, une neige tour à tour apaisante ou féroce. La neige est lourde sur nos petites vies, est-il écrit, page 129. Le Poids de la Neige, c'est un roman publié aux éditions de l'Observatoire. Normalement, la neige ne tombe qu'en hiver, ou presque. En tout cas, nous sommes censés ne jamais connaître ce que le groupe Diabologum chantait en 1996 avec son titre « De la neige en été ». J'espère que vous n'avez pas eu trop froid en écoutant cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt pour une nouvelle émission d'Appel d'air.
Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé. Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés. Et tous les magasins étaient fermés. On aurait dit la guerre, ou bien un jour férié. Sans repas de famille et sans électricité. Il n'y avait rien à faire, et rien n'a été fait. Il n'y avait rien à faire, incroyable mais vrai. Aujourd'hui c'est réservé. Problème de scénario, l'hiver est de retour, 6 mois, trop tôt, on s'abandonne au pied, il faut en profiter, on n'a pas tous les jours de la neige en été. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé. Il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. À part...
Apparemment les gens vous laissent réchauffer. Pensez à autre chose.
Parler l'envie de tout.
Parler un peu c'est bien.
Et ça ne gâche rien.
Comme ça tu sens ta way. Comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois. Il y avait deux trois chiens. Je les ai vus trinquer. Les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit qu'il était désolé. Ils ont mangé du pain. Ils ont l'air d'être à vous. Et si ça continue, ils vont devenir fous. On s'attend donc au pire, il faut en profiter. On n'a pas tous les jours de la neige en été. On n'a pas tous les jours de la neige en été. Jusqu'à l'horizon, il y avait des flammes, toutes les 10 maisons.